Merci à vous, Jean-Marc Matouaki, Monfélélé, Dijano. Il est 18h à Kinshasa, 19h à Kisangani.
Radio Kapi.
Au sommaire de cette édition d'information, le chef de l'État a clôturé ce samedi à Kinshasa les travaux des États généraux de la justice. Félix Tshisekedi s'engage à accompagner la mise en œuvre des résolutions issues de ces travaux. De leur côté, les syndicats des magistrats se disent insatisfaits de l'issue des travaux et promettent une prise de position dans les heures qui suivent. Vous allez suivre dans ce journal Edmond Issofa, président du syndicat autonome des magistrats. Ça y est, le festival Amani a bel et bien débuté l'après-midi de ce samedi au village Ioussi à Goma. Cela après l'annulation annoncée par le maire mardi 12 et la levée de la mesure vendredi 15 novembre. Dans quelques instants, Rachel Kiesembangu, l'envoyée spéciale de Radio Kapi à Goma, nous fait vivre l'ambiance qui y règne. Notre invitée, c'est la conseillère du gouverneur en charge des questions humanitaires, Jeanne Alacha. Vient de participer à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à un atelier de renforcement des États francophones sur les droits humains. Bonsoir à toutes et à tous. Le chef de l'État s'engage à accompagner la mise en œuvre des résolutions issues des travaux des États généraux de la justice. Félix Tshisekedi l'a dit ce samedi au Palais du Peuple en clôturant ses travaux qui ont duré 10 jours. L'objectif de ces assises était de diagnostiquer la maladie qui ronge la justice congolaise et d'en proposer la thérapie. D'en proposer la thérapie. 359 recommandations ont été adoptées, dont celles se rapportant à la restructuration du Conseil supérieur de la magistrature. Les participants à ces travaux ont résolu de remplacer cette institution par le Conseil supérieur de la justice, présidé par le président de la République et en cas d'empêchement par le ministre de la Justice. Ce n'est pas ce qui a été convenu. Réagissent négativement les syndicats de magistrats représentés ici par Edmond Issofa, président du syndicat autonome des magistrats et procureur de la République. Il s'est dit insatisfait de l'issue des travaux et promet une prise de position de tous les syndicats dans les heures qui suivent. On l'écoute.
Mais les rapports tels qu'ils venaient d'être déclinés ne reflètent en rien la réalité. Vous avez été avec nous à la plénière hier, vous avez suivi chaque atelier faire son rapport. Par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est à vous d'en tirer les conséquences. Mais moi je vous dis que ça ne correspond pas au rapport des ateliers. Du Conseil supérieur de la magistrature à la plénière, au niveau de l'atelier qui s'est occupé de la question, il s'était dégagé qu'il fallait que les choses restent en l'état, en attendant les options politiques. Et lorsqu'après discussion à la plénière, il avait été question de relever les dépositions et d'attendre une option politique et de soumettre les problèmes à l'arbitrage du chef. Donc ça ne cadre pas avec ce qui a été dit, puisque les problèmes majeurs, c'est lesquels? On dit que la justice est malade. Nous sortons des assises. La question est de savoir, au sortir de ces assises, comment le Conseil supérieur de la magistrature doit fonctionner. Si on veut changer la composition, il faut modifier la Constitution. Le ministre a parlé de l'article 152, mais ce n'est pas simplement l'article 152, mais également l'article 220.
Si les syndicats des magistrats ne sont pas satisfaits des résolutions issues des États généraux de la justice, en revanche, l'inspecteur général de services judiciaires et pénitentiaires se déclare satisfait et encourage de sa démarche de tout le temps. Une des résolutions prises consiste à renforcer le pouvoir de l'inspecteur et de l'étendre à tous les niveaux de services judiciaires. Et pourquoi pas contrôler aussi le ministre de la Justice, selon Constant Mutamba. Pour le premier avocat général et inspecteur général de services judiciaires et pénitentiaires, cela a toujours été son souhait. On écoute Essabé Kamouleté.
Bon, avec beaucoup de satisfaction, parce que on peut pas assurer l'inspection d'un service si on n'a pas de pouvoir de sanction, si les gens qui sont contrôlés ne craignent pas l'inspection. Je pense que par ces états généraux, on vient de donner à l'inspection générale des services judiciaires ce qui lui manquait. Donc, quitte aux animateurs de bien travailler pour dans l'intérêt d'une bonne justice, d'une bonne administration de la justice.
Est-ce que vous sentiez limité dans votre action?
Je l'ai toujours dit et je l'ai toujours soutenu.
Motif de soulagement également du côté des avocats, dont une des résolutions concerne la prise en charge de l'avocat Prodeo, entendez l'assistance judiciaire gratuite en faveur des indigents. Maître John Kavuta.
Nous nous retrouvons toujours devant certaines difficultés en exerçant ou en assumant les dossiers Prodeo sans pour que nous ayons au moins la prise en charge. Maintenant que cette résolution est prise en compte par le chef de l'État lui-même qui a pris un engagement solennel d'accompagner ces résolutions, nous pensons que nous pouvons contribuer efficacement à l'établissement et à l'administration de la bonne justice pour ceux qui sont vraiment démunis, qui n'ont pas les moyens de se rendre en justice ou de trouver un avocat. Au-delà de ça, nous sommes heureux de voir comment les assises se sont déroulées, mais je suis en train de souligner qu'il s'agit tout simplement des types d'hommes, c'est-à-dire il faut transformer les types d'hommes congolais et vous allez voir que tout ira. Nous pouvons avoir de très belles résolutions, mais si on n'arrive pas à transformer l'homme congolais, je pense que ça sera comme des lettres mortes.
C'est un dossier réalisé par Jeff Ngoy. À Goma, je le disais au sommaire, le festival Amani a débuté l'après-midi de ce samedi au village Ihusi, à Kituku. Cela après l'annulation annoncée par le maire mardi 12 et la levée de la mesure vendredi 15 novembre. En dépit de tous ces revirements, le festival a bel et bien lieu pour cette édition. Le festival met à l'honneur les talents artistiques de Goma afin de célébrer la richesse culturelle locale. Rachel Kiesembangu est sur place. Elle revient sur les premières heures de cette 10e édition.
Les fanfares du Kivu ont ouvert le bal vers 13h passées et les activités ont ainsi été lancées. Musique, danse, art, tout est réuni pour la bonne réussite de ce 10e anniversaire du festival. Les artistes rencontrés sur place sont ravis d'y participer. Charmant Mwepa, bénévole depuis 8 ans, artiste danseur et membre du collectif Les Danseurs du Kivu, revient sur le fait que le festival Amani se veut un moteur culturel dans la région.
Je suis très heureux de participer dans cet grand événement qui m'a donné de l'expérience. Les 8 ans que j'ai passé avec Festival Amani, ça a contribué dans mon parcours culturel. En peu de mots, Festival Amani, c'est l'espoir. C'est la matrice de la culture en RDC.
Une belle occasion également pour les entrepreneurs de se faire connaître et de faire connaître leurs produits. C'est le cas de Aksanti Chamamba, fondateur de Butamo, entreprise spécialisée dans la bouillie pour enfants. Il est venu expressément de Bukavu pour le festival.
C'est une opportunité pour nous parce que moi, entrepreneur, je peux venir exposer mon produit. Moi, je vends de la farine. Il y a une maman qui peut passer et son enfant a des problèmes par rapport à son alimentation. Directement, je peux intéresser cette maman, elle peut acheter nos produits.
Signalons que c'est sous un ciel pluvieux que le festival a débuté ce samedi. Goma, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Merci Rachel. Justement, les festivals Amani ne concernent pas que les adultes, mais aussi les enfants. C'est ce qui justifie la présence de l'UNICEF sur les sites. L'UNICEF encourage la paix car les enfants sont appelés à vivre dans un environnement paisible. Ilunga Félicité, encadreuse d'enfants, invite les parents à venir avec leurs enfants participer à ces festivals. Elle le dit au micro de Rachel Kiesembangu.
Déjà avec le festival Amani, on attend le terme Amani. Amani, ça veut dire la paix. Et quand il y a la paix, ça concerne les enfants également. Les enfants doivent vivre dans un environnement, dans un monde, dans une communauté où il y a normalement la paix. Et l'UNICEF participe dans le festival Amani parce que l'UNICEF veut aussi contribuer à la paix. L'UNICEF gère tout ce qui est des enfants. Et si l'UNICEF a décidé de participer, c'est parce qu'il veut que les enfants grandissent en paix. Il encourage cette paix que Festival Amani veut amener dans la ville de Goma, surtout à l'est de la RDC. Ouais, j'aimerais lancer un message à tous les parents qui ne sont pas venus au Festival Amani. C'est que le Festival Amani n'est pas ce qu'ils pensent. Le Festival Amani, c'est un lieu où il y a beaucoup de choses plus que la musique, plus que les artistes. Il y a des expositions des entrepreneurs, il y a des expositions des ouvrages, il y a vraiment beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'encouragerais à ceux qui ne sont pas là de venir demain pour apprendre et découvrir certaines choses, découvrir les talents de jeunes de la ville de Goma.
Signalons que les organisateurs ont même prévu un espace de jeu pour enfants sur les sites du festival. Autre actualité, le président de la République condamne la brutalité avec laquelle l'opposant d'Elise Sanga a été interpellé par la police jeudi à Kinshasa. Selon les comptes rendus du Conseil de ministres d'hier vendredi, au-delà des mesures déjà prises à l'encontre des policiers, auteurs de la bavure décriée, Félix Tshisekedi engage le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, à prendre des dispositions préventives nécessaires quant à l'encadrement de manifestations publiques afin que pareil dérapage ne se reproduise plus de la part de la police. On écoute l'extrait de ses comptes rendus, lu par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, extrait proposé par Grace Amzati.
Depuis le 14 novembre 2024, une vidéo devenue virale sur la toile montre des policiers se saisir de manière peu recommandable de l'acteur politique d'Elise Sanga. Des informations parvenues au président de la République font état d'une interpellation de ces derniers lors d'une activité de sensibilisation contre la révision ou le changement de la Constitution. Il a rappelé qu'au terme de l'article 23 de la Constitution, toute personne a le droit à la liberté d'expression. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du strict respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Peu importe les motifs de l'interpellation de cet acteur politique, la méthode utilisée par les éléments de la police pour le conduire à leur poste ne devrait nullement s'apparenter à des voies de fait traduites par une brutalité qu'il a déplorée et condamnée.
Une autre réaction est celle du prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, qui s'est dit profondément choqué par cette interpellation brutale de Elise Sanga, tout en rappelant que la constitution de 2006 est le fruit d'un référendum populaire qui a été l'acte fondateur de l'avènement de la démocratie en RDC. Selon lui, cette démocratie est aujourd'hui chancelante et menacée par un régime en pleine dérive autoritaire, méprisant les libertés fondamentales garanties par ses contrats sociaux et par les conventions internationales relatives aux droits humains auxquelles notre pays a librement souscrit. Et puis, la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, PLAF, et les consortiums Congo n'est pas à vendre, CENPAV, ont appelé ce vendredi la National Prosecuting Authority, NPA sud-africaine, a enquêté sur les fonds congolais détournés et dissimulés dans les biens immobiliers en Afrique du Sud. Ces organisations de la société civile ont lancé leur appel au cours d'un échange avec les médias à Kinshasa. Le porte-parole de CENPAV a exprimé sa préoccupation de l'absence d'action des autorités sud-africaines à la suite des soumissions des preuves démontrant des politiques congolais ayant blanchi les fonds détournés dans l'acquisition des propriétés au pays de Mandela. Jimmy Kande au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Nous avons voulu, avec nos amis de Open Secret en Afrique du Sud et les différentes organisations afro-hautes autres qui sont dans cette plainte, rappeler aux autorités sud-africaines que nous attendons d'eux de pouvoir agir et d'aider les Congolais à pouvoir récupérer tous ces biens qui ont été achetés en Afrique du Sud avec de l'argent public du contribuable congolais. Alors qu'on est en train de s'adresser en même temps aux autorités sud-africaines, cette conférence est aussi une forme de rappel aux autorités congolaises. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans une impunité totale. Nous avons décrié cette impunité à l'époque de Kabila et aujourd'hui, rien ne semble changer. Le président de la République, récemment, il a dit qu'il était prêt à ouvrir les casseroles. Ouvrir les casseroles passe également par l'ouverture de l'enquête Congo Hold Up qui doit faire en sorte que l'argent public congolais qui a été détourné, des biens qui ont été achetés avec cet argent, puisse être restitué aux Congolais.
La criminalité reprend de plus belle dans la ville frontalière de Kasumbalesa, dans les Haut-Katanga. D'après la société civile locale, il ne se passe pas une seule nuit sans que des maisons ne soient cambriolées et des biens de valeur emportés. Pour cela, elle plaide pour que la sécurité soit renforcée et la police dotée des moyens conséquents pour y faire face. D'autres détails avec Peter Lunda, coordonnateur urbain de la nouvelle société civile congolaise, ville de Kasumbalesa. Il a été joint par Jean Gandou.
Nous avons la recrudescence de l'insécurité, surtout avec le début de la saison des pluies. La paisible population ne passe pas bien nuit. Il y a des visites nocturnes au cours de ces mois sur l'avenue Bomberger, longeant les rails. Plusieurs maisons de ce coin-là sous station étaient visitées. Du côté quartier Combo, on a cassé des vitres, on a pris de l'argent. Quartier Quatre Coins, plusieurs maisons ont été visitées. La société civile recommande à l'État congolais de renforcer la police en charrois automobile pour que l'intervention soit ponctuelle. Parce que toute la ville, la police n'a qu'une seule jeep. Comment intervenir lors du besoin de la population? On a demandé la multiplication des sociétés pour que la population puisse vraiment être secourue. Qu'on renforce la police en effectif. Nous demandons à notre autorité qu'il y ait l'assistance de notre population.
Tous nos efforts pour avoir la réaction des autorités locales sont restés vains.
Actualité internationale.
Dans les camps des déplacés au Tchad, plusieurs femmes soudanaises ont rapporté avoir été victimes d'exploitation sexuelle par des agents de sécurité et des travailleurs humanitaires, souvent en échange des biens de première nécessité ou d'argent. Une jeune femme de 27 ans qui a souhaité rester anonyme affirme avoir conçu cet enfant à la suite de cet abus sexuel. Nous sommes arrivés au Tchad et la nourriture fournie n'était pas suffisante. Dans cette situation, j'ai été contrainte d'avoir des relations avec un homme et j'ai donné naissance à cet enfant. J'avais déjà 4 enfants issus de mon mariage et celui-ci est le 5e. C'était une nécessité car il ne nous donnait pas assez à manger. La grande majorité des personnes réfugiées dans ces camps sont des femmes. Beaucoup des victimes n'ont pas le courage de témoigner et celles qui acceptent de les faire les font souvent dans les plus grands secrets par crainte de représailles.
L'invité.
Notre invitée dans ce journal, c'est la conseillère du gouverneur en charge des questions humanitaires. Jeanne Alacha vient de participer à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à un atelier de renforcement des États francophones sur les droits humains. C'est dans le cadre du protocole de Maputo. Jeanne Alacha nous parle de la contribution de la RDC à ces assises qui ont réuni plusieurs chefs d'État africains et leur impact pour le pays, dont la province de l'Ituri, affectée par de nombreux défis sécuritaires et humanitaire. Jeanne Alacha s'entretient avec Ezekiel Mouzalia.
Jeanne Alacha, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de prendre part à un atelier sur le renforcement des relations entre les États francophones dans le cadre du protocole de Maputo en Côte d'Ivoire. D'abord, c'est quoi le protocole de Maputo?
Le protocole de Maputo, d'abord, c'est la charte africaine. La charte africaine des droits de l'homme et du peuple, c'est une qui gère tous les Africains. Pour compléter cette charte qui n'avait pas beaucoup tenu compte des problèmes des femmes, on a fait un protocole qui complète la charte. Et maintenant, c'est le protocole de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique.
De quoi il était question dans cet atelier?
Dans cet atelier, il était question de rappeler d'abord au pays. Quand un pays adhère à la charte, quand un pays ratifie les protocoles, doit faire des rapports pour que, au niveau de l'Afrique, on regarde s'il y a des évolutions positives, ou bien il y a des reculs, ou il y a des changements. Pour faire les rapports, est-ce que les droits de l'homme et les droits des femmes évoluent positivement? C'est pourquoi il faut faire des rapports. Dans notre cas de la RDC, dans 20 ans, on a fait seulement un seul rapport.
Et qu'est-ce qui fait à ce que la RDC ne produise pas assez de rapports, donc au regard de tout ce que les peuples congolais connaissent jusqu'à présent?
Bon, je crois que le problème des rapports, c'est question aussi d'organisation. Peut-être qu'au niveau de chaque ministère, il y a du retard, mais ce qui est sûr, à la RDC est en train de préparer son 2e rapport.
Cette rencontre a réuni différents chefs d'État africains. Qu'est-ce qui a motivé la présence de l'Ituri à ces assises?
Bon, nous, la présence de l'Ituri, c'est parce que déjà, en Ituri, par rapport au ministère du genre, nous sommes vraiment très actifs. Nous sommes parmi les provinces qui sont vraiment, même dans la mise en œuvre de la résolution 1325, les suivis des droits des femmes. C'est comme ça qu'on a été identifié par les ministères de genre pour pouvoir aller représenter au moins des provinces dans ces assises-là. Donc c'est vraiment par rapport au leadership qui se passe au niveau de notre province qu'on a été identifié.
Ça veut dire que l'Ituri a eu des particularités, par exemple, pour être représentée là-bas?
La particularité de l'Ituri, c'est d'abord, nous sommes dans une zone de conflit, et dans les rapports, on parle vraiment de conflits aussi. Il y a des viols des femmes qui se font au niveau de l'Ituri, il y a beaucoup de discriminations, donc on pouvait aussi quand même montrer l'image de l'Est, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Est. C'était quand même important que nous soyons là avec la délégation de Kinshasa pour qu'on montre aussi qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut compléter les rapports avec ce qui se passe au niveau de l'Est.
Quelle a été votre contribution dans le cadre de la promotion du leadership féminin africain en s'inspirant sur l'exemple de l'Ituri?
Bon, on a été invité parce qu'on on a fait la conférence dans une université de Boaké, l'université Alassane Ouattara. Et Boaké, vous savez que c'était aussi une région qui était très affectée par les guerres. C'était aussi une zone qui était contrôlée par les rebelles, qui est tentée de se reconstruire. Donc il fallait quand même partager avec les étudiants de cette région qu'est-ce qui se passe en Ituri. Parce que le problème, c'est qu'il faut aussi intéresser les jeunes, surtout on a fait à l'université et à l'école secondaire.
Que peuvent donc attendre les femmes de l'Ituri, en particulier celles-là qui vivent dans des conditions misérables, dans les sites déplacés, par exemple ici, de ces assises?
D'abord, les assises qu'on a fait d'abord au niveau de protocole de Maputo, ça veut dire là, ce sont les obligations des États. Donc, le point de vue de l'Ituri, ce qui est important, c'est de montrer qu'en Ituri, que les femmes ont un rôle très important à jouer. Ils sont dans les négociations, dans la prévention des conflits et dans tout ce qui est relèvement communautaire. Alors, qu'est-ce que les femmes de l'Ituri peuvent attendre? Les femmes d'Ituri ne peuvent pas attendre que ça vienne de la Côte d'Ivoire. Mais on a partagé leur travail là-bas. Ça veut dire quand même que leur travail est reconnu au niveau aussi des autres pays d'Afrique. Donc l'Ituri, la RDC, même l'Ituri peut être défendu aussi par d'autres pays africains. Parce que les autres pays africains ne sont pas d'accord, ne sont pas contents de ce qui se passe en RDC. Ils sont touchés et ils veulent que ça cesse.
Jeanne Alacha, je vous remercie.
Merci.